Morning Edition from NPR News.
Merci, Jean Sandin, the housing. I am ready to lose
the radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, forcément, nous sommes au Sahel après la mort de 13 soldats français. Les questions qui viennent aussi, forcément, sur l'opération Barkhane, sur la présence française au Sahel, sur le terrorisme également. Le bruit du monde est en Colombie avec d'anciennes prostituées sur les planches à Medellin. Et Amélie Perrier nous dira que la révolution irakienne a désormais un visage. On parlera aussi de racisme dans les assiettes, figurez-vous. Passons genre dans le monde et Julia Foyce avec une pub anglaise plébiscitée par les LGBT de ce pays et les Belges aussi qui allongent le délai légal d'avortement. Le monde à l'envers est Cyril Sauvageau et vous verrez qu'on ne parle pas de Brexit ou pas beaucoup en tout cas dans la campagne pour les législatives chez les Anglais. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir à vous.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Michel Goya.
Bonsoir.
Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, vous êtes historien, spécialiste des questions militaires. Claude Guibal est là avec nous. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Vous faites très régulièrement des reportages dans cette zone du Sahel. Vous revenez du Burkina d'ailleurs, on l'avait entendu ici même dans Un jour dans le monde. Michel Goya, est-ce qu'on peut expliquer d'abord cet accident? Ça n'est pas dans un pur engagement, dans un échange de tirs que cette collision a eu lieu, mais on est là dans des opérations avec des engins qui volent très bas, qui volent très vite, des opérations qui sont très techniques et très compliquées.
Oui, comme souvent, hein, la zone sahélienne, c'est une zone très vaste où on mène des opérations qui sont des opérations de recherche, de traque, et donc très concrètement, le type d'opération, une opération finalement assez courante où on traque une bande, un groupe rebelle, et puis ensuite, une fois qu'il est décelé, on envoie des forces essentiellement par hélicoptère pour le détruire. Et donc c'est dans ce cadre de mission, encore une fois une mission assez...
Presque banale au fond, c'est difficile banale, de dire
oui,
ça non, comme
mais,
ça parce que
non,
c'est
mais
extrêmement
voilà,
dangereux,
mais ils savent faire. Exactement, exactement qu'est survenu cet accident.
On est dans une opération de soutien, c'est-à-dire que ce sont les troupes au sol qui appellent les renforts à ce moment-là en disant on a besoin de soutien aérien.
Alors en termes militaires, soutenir ça veut dire qu'on est prêt à aider.
C'est ça.
C'est-à-dire on est là et on va compléter l'action de ceux qui sont directement au contact. Soit en les renforçant, soit en bouclant la zone, etc.
Avec des engagements de ce type, vous le disiez, qui sont extrêmement réguliers avec les djihadistes de cette région, ce sont des choses qu'on fait souvent, en fait, ou pas, lorsqu'on est dans une opération comme l'opération Barkhane.
Ah ben c'est quelque chose, oui, qui est fait assez souvent. C'est une opération qui est faite de multiples petites opérations de ce genre. C'est des petits combats, mais nombreux. En moyenne, depuis 2014, on élimine un combattant djihadiste tous les deux jours, à peu près. Donc voilà, c'est une multitude de petites actions de ce type.
Est-ce que ces opérations, Claude Guibal, sont de plus en plus compliquées avec des djihadistes qui sont peut-être de plus en plus compliqué à appréhender parce qu'ils s'organisent aussi face à la réponse que Barkhane peut donner ou pas?
Mais ce qu'on peut voir depuis le début de cette guerre au Sahel en 2012-2013, hein, d'abord avec le déclenchement de l'opération Serval qui servait en fait à contenir les djihadistes qui à ce moment-là étaient au nord du Mali, c'est que les djihadistes pendant toutes ces années ont appris leur erreur. Ils ont énormément adapté leur tactique. Au début, on l'a vu au nord du Mali, ils ont cherché à occuper des territoires, à administrer des zones, à tenir des villes. Or, tout ça, c'est compliqué, ça demande de l'organisation et ça les rend plus vulnérables parce qu'il est plus facile d'attaquer une ville que comme ça, de devoir gérer des djihadistes qui sont extrêmement mobiles. On a en face une armée comme l'armée française qui arrive avec ses blindés et vous avez des djihadistes qui se déplacent à moto, à pick-up, qui sont extrêmement volatiles, qui se fondent dans les populations. Ce que les djihadistes ont appris, là où leur stratégie a changé, c'est qu'au lieu donc, comme ça, de contrôler de façon très précise des grandes villes difficiles, ils vident des territoires entiers, ils vident les zones rurales, donc en attaquant les villages, en jouant, on y reviendra peut-être sur les rivalités communautaires, tout ça. Ils attaquent des positions militaires, ils créent de l'insécurité, les populations s'en vont, et ils continuent leurs avancées comme ça, puisqu'ils ont des vastes domaines comme ça, des vastes zones extrêmement compliquées. La topographie, la géographie de ces régions est particulière, donc face à cette volatilité, il est très très difficile pour une armée conventionnelle de tenir un territoire aussi vaste.
Et on dit qu'il gagne peu à peu du terrain, Michel Goya, de plus en plus difficile donc à maîtriser, ça veut dire aussi très équipé, très armé, où au fond, il suffit de ces petits morceaux de petites guérillas pour arriver à semer ce chaos-là dans le Sahel.
Oui, alors ils sont pas spécifiquement bien armés, etc. C'est pas, ils sont pas très nombreux d'ailleurs au bilan. Tout ça, ça représente quelques milliers de combattants.
3 000, 5 000, on dit.
Oui, voilà, tous les groupes, groupes réunis. Hein, mais en réalité, ils ne sont forts que parce que certains États sont faibles. C'est ça. Un bon militaire, moi, quand je regarde un ennemi, je cherche son centre de gravité. Qu'est-ce qui la source de sa puissance? En fait, le centre de gravité des groupes djihadistes, il n'est pas chez eux, il est à l'extérieur. C'est la faiblesse des États. Et c'est pas pour rien si tous les problèmes, si tout le chaos se concentre au Mali, au Burkina, dans certains États, au Mauritanie, au Tchad, les choses se passent différemment.
Parce qu'il y a des armées, notamment au Tchad, qui ont plus de poids, qui arrivent plus à lutter contre ces groupes-là. Ouais,
parce qu'il y a des États qui sont un peu plus solides, qui ont effectivement eu un bras armé qui est lui-même solide. Les deux vont souvent ensemble.
Ouais, ouais. Avec des méthodes très solides et fortes.
Non, mais voilà, qui sont alors, très, techniquement, qui sont beaucoup plus adaptés au terrain. Là, vous avez l'armée malienne recrutée dans les régions du sud avec des gens qui n'ont jamais vu le désert, quoi. C'est souvent très, très compliqué. Donc oui, c'est essentiellement ça, c'est un problème militaire, mais c'est un problème en réalité de manque d'État, quoi, de manque d'administration, de manque de tas de choses. Et les djihadistes occupent un vide. Et les milices, on va parler, occupent aussi en réalité un vide d'État.
Et c'est peut-être ça aussi, Claude, l'un des échecs, je vais mettre des guillemets, parce qu'à son corps défendant de la France, je me souviens très bien 2013 du début, l'opération Serval, derrière l'opération militaire, il y avait aussi une opération de stabilité politique.
Absolument. L'idée au Mali, c'était quand même de créer les conditions d'une transition démocratique au Mali, de créer un État, de permettre à l'État d'être fort. On voit qu'il y a un énorme problème de gouvernance au Mali, parce que la question... Il y a une crise sécuritaire au Mali et dans tout le Sahel, elle est évidente, mais elle vient s'ajouter à une crise politique. Le gouvernement malien aujourd'hui, l'État malien, est-il représentatif des communautés qui représentent le Mali? On voit bien que c'est pas le cas. Donc, les communautés locales, comment vous voulez, dans une guerre qui est contre un ennemi comme ça, invisible, impalpable, la guerre contre le terrorisme, ça nécessite d'abord l'appui des populations, du renseignement humain. Comment voulez-vous que dans des régions qui sont en déshérence, complètement abandonnées de l'État, où l'État n'est pas présent, ni de façon sécuritaire, ou quand il est présent de façon sécuritaire, c'est à la manière forte. Il n'y a pas de développement qui va avec. L'État, il est vu comme simplement écrasant, violent, et pas du tout un État au service de la population. Donc ces populations-là, les populations locales, vers quoi elles vont se retourner? Elles vont se retourner vers les djihadistes qui savent parfaitement jouer de ces failles de l'État, soit en se présentant en alternative sécuritaire, en réglant sur place la justice, la sécurité, etc. Soit en jouant justement sur les absences de l'État, en jouant sur les conflits intercommunautaires.
Et c'est ce que vous nous avez raconté récemment au Burkina, où on s'appuie sur les conflits ethniques et les terroristes font leur terreau, évidemment, là derrière.
Voilà, ils s'appuient sur les conflits interethniques dans des régions où l'État est absent et va déléguer finalement la sécurité à des milices locales. On l'a vu au Mali, notamment avec les chasseurs d'ozo qui, dans certaines régions, s'en prennent aux populations peuls. Les populations peuls, qui sont ces populations nomades, musulmanes, qui sont déscolarisées, qui est une culture très très fermée sur elle-même et qui sont devenues un vivier de recrutement pour les groupes djihadistes qui jouent sur eux. Eh bien, par exemple, au Mali, on l'a vu avec des massacres énormes comme à Ouagadougou, les représailles qui se font après une attaque djihadiste se font sur les populations peuls. Même chose au Burkina Faso, où l'État a délégué la sécurité dans ces zones à des milices communautaires qui se vengent et qui viennent donc faire le jeu des djihadistes.
Là, on parle de l'État islamique au Grand Sahara. Michel Goya, j'ai envie de dire, là aussi, je vais y mettre des guillemets, quelle importance, quel que soit le groupe, au fond, est-ce que ça a réellement une importance ou est-ce que ce soit celui-là en particulier signe quelque chose?
Non, pas forcément. Hein. Ça aurait pu être ce qu'on appelle le GSIM, qui est lui-même l'autre fédération de groupes djihadistes, la Katiba du Massina, etc. Finalement, bon, ce sont des organisations, des groupes qui se ressemblent très largement dans leur idéologie, quoi, et dans leur manière de faire aussi.
Alors forcément, on interrogera le rôle de l'opération Barkhane. Ça commence doucement à monter. On est obligé d'appuyer aussi sur cette question-là. Mais est-ce qu'on peut dire quand même en préambule que oui, il n'y a pas que des choses positif dans cette opération Barkhane, il y a une France qui est particulièrement seule, mais est-ce que si cette opération n'existait pas encore aujourd'hui, ce serait réellement pire, Michel Goya? Est-ce qu'on peut dire ça aussi clairement?
Oui, certainement. Le problème de Barkhane, c'est elle est un peu comme une clé de voûte, c'est-à-dire qu'elle tient un certain nombre de choses, mais en même temps, elle est coincée, quoi. Et elle peut faire, les militaires français peuvent faire un certain nombre de choses. Ils exercent une pression sur les organisations djihadistes. Ils empêchent le retour de ces grandes bases. On l'a quand même pas oublié, mais ces organisations tenaient tout le nord du Mali, quoi. Donc tout ça, c'est pas possible militairement. Ça les oblige à se fractionner, à se diluer, etc. Donc on exerce une pression sur ces groupes djihadistes. Et si on n'était pas là, concrètement, il y aurait évidemment beaucoup plus de liberté d'action pour ces organisations.
Mais alors, est-ce qu'il faut repenser, parce que on l'a dit plusieurs fois, 4500 soldats français sur une zone qui est absolument gigantesque, et les autres pays du G5 Sahel, disons-le clairement, qui n'ont pas l'efficacité qu'ils devraient avoir, voire même pas la présence qu'ils devraient avoir. Donc la France est, contrairement à ce que dit la ministre, c'est son rôle, la ministre des Armées, la France est plutôt seule aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait repenser cet engagement? Est-ce qu'on peut l'imaginer différent aujourd'hui? Et j'ai presque envie d'ajouter, ou alors est-ce qu'on parle du bourbier sahélien, Michel Goya? Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Oui, d'une certaine façon. Mais alors moi, j'étais pas partisan à la fin de l'opération Serval de rester, de continuer sur place, de rester avec une force qui serait au milieu d'un conflit extrêmement complexe où elle peut faire un certain nombre de choses, mais où ses marges de manœuvre dans tous les domaines qu'on a évoqués, je veux dire sur l'administration, c'est pas Barkhane qui va administrer, qui va régler les problèmes entre éleveurs au centre du Mali. Enfin donc, et en même temps, se mettant en position centrale, visible, c'est aussi la porte ouverte à toutes les critiques, à tous les fantasmes aussi habituels. Hein, j'ai fait un certain nombre d'opérations, notamment en Afrique, où c'est assez fréquent. Lorsqu'il y a un problème, c'est qu'il faut il y a quelqu'un qui a la source du problème. Il faut chercher l'autre qui est la source du problème. Et la France est un bouc émissaire toujours extrêmement pratique dans ce genre d'opérations pour expliquer que les choses ne vont pas bien. On est dans une situation compliquée. Il faut rappeler aussi qu'on a par exemple une opération des Nations Unies qui est quand même au Mali, c'est 12 000 combattants, 1 milliard d'euros par an, alors qu'on cherche de l'argent pour financer les forces du G5 Sahel par exemple. Vous avez tous les ans les Nations Unies qui dépensent autant d'argent que tous les budgets de défense des 5 pays du Sahel.
Pour des soldats qu'on voit rarement dehors, pour dire les choses
clairement. On ne voit jamais dehors, qui ne servent strictement à rien, quoi, et qui représentent une force très, très supérieure en nombre à tous les groupes djihadistes de la région. Donc là aussi, il faut peut-être questionner ce genre d'opération, questionner surtout les États eux-mêmes, on l'a déjà évoqué, mais Mauritanie s'en sort plutôt bien, par exemple le Tchad aussi, le Niger aussi, d'une certaine façon, quoi. C'est vraiment, les choses sont surtout concentrées dans, quand on regarde une carte des actions, des attaques terroristes, des attentats, concentrées dans au Mali et au Burkina, avec le risque d'un chaos, d'une implosion de ces deux pays et éventuellement des actions sur le golfe de Guinée, ce qui serait également très, très, extrêmement grave.
Et des soldats français parfois mal perçus par la population locale, Claude, très mal perçus même.
De plus en plus, on a vu ces dernières semaines des manifestations contre la présence française au Sahel. On l'a vu au Mali, au Niger à plusieurs reprises, plus récemment au Burkina Faso. Tout cela, ce sentiment anti-français, il vient d'abord...
Mais qui est dû à quoi ?
Alors, dans la population, quand vous parlez aux gens, les gens, ce qu'ils voient, c'est que l'insécurité chez eux augmente. Et donc, ils se disent comment ça se fait ? Que depuis des années, alors qu'il y a, on a parlé des 4500 soldats de Barkhane, mais il y a effectivement 20 000 soldats étrangers dans cette région sahélienne, et on dit, mais comment, avec une armée française si forte, etc., comment ça continue alors que ça devrait régresser? Si ça continue, c'est bien, et c'est là que toutes les théories sont possibles, des plus fumeuses aux plus légitimes, mais c'est comment, à qui profite le crime? Alors, on voit l'armée française finalement comme la poursuite d'une armée d'occupation. Il ne faut pas oublier notamment que dans des pays comme le Burkina Faso, eh bien, la France, c'est le pays qui est considéré comme celui qui a permis au régime de Blaise Compaoré, par exemple, de tenir pendant 27 ans. C'est une armée qui est vue comme finalement là pour préserver les intérêts des multinationales, l'accès à certaines ressources, aux sites stratégiques, aux sites miniers. Et puis, il y a toutes ces campagnes que l'on entend donc sur les réseaux sociaux, qui sont extrêmement, extrêmement virulents dans la zone sahélienne, dont certains experts disent qu'ils voient là-dessous la main d'officines russes, parce qu'il faut voir que parallèlement à cette perte d'influence, ou en tout cas ce qu'est questionnement de la présence française, il y a la Russie, l'appui militaire de la Russie qui est de plus en plus ouvertement demandé. Il y a quand même un partenariat qui a été signé l'été dernier entre Moscou et le Mali. Partenariat militaire. Et tout récemment, au forum de Dakar, il y a quelques jours, le Burkina Faso, mais aussi le Tchad, ont dit à Moscou, on fait des gros appels du pied en disant « Venez nous aider à rejoindre le partenariat stratégique pour la paix au Sahel. Peut-être que votre présence, à vous les Russes, fera la différence. »
En quoi l'opération... je vais reformuler, Michel Goya. Est-ce qu'une opération militaire, au fond, est suffisante ? C'est-à-dire que, en gros, faudrait-il l'accompagner d'opérations de développement plus importantes qui ne sont pas forcément du domaine du militaire, on est d'accord, mais est-ce que le militaire seul, au fond, est réellement suffisant dans un endroit comme celui-là ? Précisément d'ailleurs pour éviter ce que vient de nous expliquer Claude.
Non, non, bien sûr, militaire, mais nécessaire, mais pas suffisant. On l'a déjà un peu évoqué, mais le problème, c'est en réalité, c'est tout le reste. Le problème, c'est la politique, la politique locale, quoi. Donc, l'action militaire, c'est une action politique, mais il en faut d'autres. Il y a tout un tas de problèmes locaux. On va parler de la question Touareg, par exemple. Là aussi, on aurait peut-être, pour le coup, dû faire plus nous Français de politique locale. C'est-à-dire peut-être un peu tordre le bras de l'État malien pour qu'il trouve enfin une solution qui fasse la paix avec les Touaregs, etc. Mais la limite avec l'ingérence et la limite avec la critique de néocolonialisme est toujours extrêmement floue et délicate à franchir, quoi. Donc comment agir sans apparaître comme
Une force d'occupation, comme un pays néocolonial, etc.
C'est un peu la malédiction de l'armée française, enfin des Français souvent en Afrique, soit on ne fait rien et on est accusé de non-ingérence, et puis soit on fait quelque chose et on sera accusé très rapidement de néocolonialisme.
En tout cas, merci beaucoup Michel Goya, merci beaucoup à vous Claude Guibal également. On aura, j'imagine, largement l'occasion d'y revenir sur ce Sahel dans Un jour dans le monde. La suite, ce soir, c'est en Colombie avec une opération destinée à sortir...
Sur France Inter.
Voilà, je me suis marché dessus, dites-moi, avec une opération destinée à sortir les prostituées des trottoirs. Ça se passe sur les planches. Le bruit du monde, la suite, c'est vous, Amélie Perry, avec du racisme dans l'assiette.
Oui, on dit parfois que la nourriture indienne est trop épicée. Là, vraiment, ça a fait tousser quelques personnes aux États-Unis.
À tout de suite, dans son, pas son genre dans le monde, et Julia Foyce. Bonsoir, Julia.
Bonsoir.
Voilà qu'on assouplit la loi sur l'IVG en Belgique.
Oui, le délai légal pourrait passer à 18 semaines de grossesse.
Et puis le monde à l'envers, avec Cyril Sauvageau. Le Brexit ne fait pas campagne en Grande-Bretagne, alors, au fond.
Eh bien, on a pu croire que les élections anticipées qui arrivent en décembre seraient une sorte de nouveau référendum pour ou contre le Brexit. Eh bien, pas du tout. Il y a d'autres thèmes plus socio-économiques qui sont en train de s'imposer.
Et à tout de suite. Voici Bruce Springsteen sur France Inter. Sundown, c'est dans la playlist de France Inter. Et on aime la playlist de France Inter.
idéal.
Le bruit du monde, ce soir est en Colombie et je vais vous faire découvrir une initiative sociale et artistique hors du commun grâce à l'histoire que va vous raconter Najat Benrabah. Voici une organisation culturelle qui aide les prostituées à sortir de la rue grâce à des performances artistiques dans les musées, dans les théâtres de la ville de Medellín. Ces femmes s'appellent las Guerreras del Centro, les guerrières du centre, et ce sont toutes d'anciennes prostituées ou des travailleuses du sexe qui tentent d'arrêter. Depuis 2 ans, ces femmes racontent donc leurs histoires sur les planches et Najat Benrabah les a donc rencontrées.
Mesdames, j'ai été maltraitée par un homme qui disait m'aimer. Un jour, il est arrivé sous chez moi pour soi-disant parler. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire et que je voulais qu'il prenne ses distances. Rien que pour ces mots, il m'a cognée. Il m'a frappée au visage et sur tout le corps.
Ces mots sont ceux de Jacqueline Duque sur la scène de l'auditorium du Musée d'art moderne de Medellín. Cette mère de 52 ans tente d'arrêter le métier de travailleuse du sexe, un métier qu'elle avait commencé il y a 15 ans pour nourrir ses 2 enfants.
Tomber dans la prostitution, c'est difficile. Par exemple, on est sans cesse confronté aux dangers et aux maladies, confronté au risque qu'un client vous frappe. J'ai connu des collègues qui ont été tuées juste parce qu'elles ont dit qu'elles ne voulaient plus continuer, qu'elles étaient arrivées à leur limite du service à proposer ou qu'elles avaient des douleurs physiques. Les hommes ne comprennent pas ça. Ils disent « je te paye pour un service, alors tu vas attendre que je termine ». Parce qu'il faut comprendre que dès qu'on accepte un client, on est tendu. On est stressé, la chair se tend et se referme. L'acte sexuel nous fait alors mal et on accumule cette douleur à chaque client. Les maladies arrivent alors comme les inflammations du vagin ou des fibromes.
Cette violence, Jacqueline la raconte sur scène. Symboliquement, elle chante une ballade colombienne en playback avec des roses à la main. Derrière elle, un projecteur vidéo montre son visage de profil heurté par du texte. Ce sont les insultes qu'elle supportait. Elle mange des roses, ou plutôt ingurgite les pétales pour dénoncer la violence. D'après l'Observatoire des féminicides en Colombie, au premier trimestre 2019, on comptait 220 féminicides dans le pays. Outre les représentations dans les musées et les théâtres, les Guerreras del Centro, les guerrières du centre, racontent également leur histoire avec des ateliers de crochet ouverts au public. Pendant qu'elles tricotent, elles partagent leur expérience avec les Colombiens. Ce groupe a vu le jour dans un musée. Mélissa Toro, la directrice du projet.
Attento.
Le projet est né il y a 2 ans, dans le musée d'art moderne d'Antioquia, avec une résidence artistique qui s'appelait Résidence Cundinamarca. Une artiste, Nadia Granados, y a participé et a décidé de monter une performance avec des prostituées du quartier de la Veracruz. 8 femmes ont été choisies lors d'un casting. Elles ont alors débuté le projet « Personne ne sait qui je suis ». Et puis ensuite, le projet « Les guerrières du centre ». En réalité, ce n'était pas vraiment du théâtre, plus une performance artistique. On peut dire que c'est un dérivé, parce que c'est le concept de Nadia. Elle a semé la graine.
Puis l'art est devenu un outil de défense des femmes, un outil politique.
C'est un cri de dénonciation, un cri de redéfinition, un cri de catharsis de toutes les violences qu'elles ont subies durant leur vie. Je veux dire, c'est un cri curatif grâce à la scène. Pour moi, la scène, c'est un exercice de liberté. Ce qui se passe en Colombie et à Medellín, avec le thème de la prostitution, c'est paradoxal. C'est un secteur qui est supposé être légal, mais rien n'est régulé. Rien n'est fait en faveur des prostituées. Elles n'ont aucun droit. Elles n'ont pas le droit de s'inscrire à la sécurité sociale ni au système de retraite. Sur cette question, on est clairement un pays du tiers-monde, dans lequel, par exemple, 58% des féminicides à Medellín ont lieu dans le centre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tué une prostituée. Mais en faisant des ateliers avec les citoyens, on montre un autre aspect. On montre qu'une prostituée, c'est une femme comme les autres. Une belle femme qui peut être ta femme, ta tante ou ta mère.
Ou
À Medellín, on compte plus de 17 000 prostituées. En deux ans, l'organisation Las Guerreras del Centro a transformé la vie de 15 Colombiennes.
Najat Benraba pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde, quand il passe sous les radars, annonce l'arrivée d'Amélie Perrier. Un bruit du monde qui nous emmène, Amélie, ce soir en Irak, où les manifestations se poursuivent contre le pouvoir et où un visage est placardé sur les murs, c'est le visage d'un jeune homme.
Safa Al-Sarraï, il avait 26 ans, il étudiait pour devenir ingénieur, il était aussi poète et activiste. Il manifestait quand il a été touché à la tête par une grenade lacrymogène. Voilà ce que dit aujourd'hui l'un de ses amis, une vidéo diffusée par la BBC. Safa utilisait son stylo et sa voix pour combattre le système politique corrompu jusqu'au jour où il est mort en martyr. Safa recueille aujourd'hui les graines de la révolution qu'il a semées dans le cœur des gens. Maintenant, la place Tahrir à Bagdad est emplie de sa mémoire. Safa reçoit le résultat de son œuvre. Alors Safa est devenu un symbole de la protestation, son visage est tagué dans Bagdad, ses proches disent que sa mort n'a rien d'un accident en fait, qu'il a reçu une cartouche de gaz lacrymogène en pleine tête parce que les forces de sécurité visent volontairement la tête des manifestants. La BBC montre des images de scanner très choquantes où l'on voit la cartouche à l'intérieur du crâne entrer par l'œil. Depuis deux mois, les violences autour des manifestations ont tué environ 350 personnes en Irak et fait de très nombreux blessés. Mais on ne sait pas qui sont les auteurs de ces violences, les militaires, la police ou encore des milices. Les appels à la retenue des dirigeants ne semblent pas entendus et les marches se poursuivent. Elles se propagent même à travers le pays, dans des villes épargnées jusque-là. Elles se prolongent dans la journée, également là où elles ne survenaient que la nuit.
Quand le racisme, Amélie, les accusations de racisme vont se nicher jusque dans nos assiettes.
Alors c'est un tweet qui déclenche un débat enflammé aux États-Unis. Le message posté par Tom Nichols, un universitaire, il écrit « La nourriture indienne est terrible et nous faisons comme si ce n'était pas le cas ». Première réaction, c'est une généralité insipide. Mais plus largement, le débat s'est orienté sur le racisme vécu dans le domaine de l'alimentation.
In India, when a girl is born, it's that moment of darkness in a family. My mother cried at my birth.
Alors ici, c'est Asma Khan, dans la très bonne série Netflix Chef's Table. Asma Khan, la chef britannique d'origine indienne, elle évoque l'héritage culinaire de sa mère. Une fierté, dit-elle. Alors quand Tom Nichols, c'est un professeur à l'école de guerre navale, c'est un conservateur anti-Trump, quand Tom Nichols critique la nourriture indienne, il se prend une salve de critiques. « Vous n'avez pas de papilles gustatives ?» lui demande la top modèle et cuisinière Padma Lakshmi. Preet Bharara, ancien procureur de New York, propose même de l'emmener goûter quelques spécialités avec ce hashtag Butter Chicken Summit, un sommet du butter chicken, c'est une spécialité indienne, car beaucoup reprochent à Tom Nichols de n'avoir goûté qu'1% de tous les plats du pays où la gastronomie est si riche. Et la femme politique d'origine indienne, Sarah Rao, qui témoigne, qui dénonce ceux qui disent que la nourriture indienne sent bizarre, qu'elle-même du coup sentirait bizarre. Ouais, alors d'autres célébrités ont lancé en réaction le mot-clé mon plat indien préféré, en photographiant des plats indiens. Ça a vite été repris par les politiques. La candidate à l'investiture démocrate Kamala Harris, originaire du sud de l'Inde du côté maternel, a sorti sa vidéo de cuisine avec l'actrice Mindy Kaling, d'origine indienne elle aussi. Et cette bataille contre le racisme culinaire touche également la nourriture chinoise. Enfin, certains ont souligné qu'évidemment, les plats chinois emportés peuvent être aussi mauvais qu'un hamburger dans un mauvais fast-food, mais qu'il existait également une gastronomie fine recherchée venant d'Asie dans les restaurants qui s'en donnaient les moyens.
Allez, direction Madagascar, Amélie, pour finir, où on se demande quand on pourra voir un match de foot international.
Pas tout de suite, a répondu le président de la FIFA en visite dans la grande île et au stade de la capitale. Je ne sais pas si on peut appeler cela un stade, a dit Gianni Infantino au micro de nos confrères de RFI.
Le stade actuel ne correspond pas du tout aux normes internationales. On est obligé de devenir très strict à ce sujet. Si les choses ne changent pas, il ne peut pas y avoir des matchs internationaux de qualification de la Coupe du Monde. Et ça serait vraiment dommage, surtout que l'équipe nationale du Madagascar aujourd'hui est une des meilleures équipes en Afrique, avec des vraies chances de se qualifier, pas seulement pour la Coupe d'Afrique, mais aussi, pourquoi pas, pour la Coupe du Monde en 2022.
Alors les tâches s'engagent, en tout cas 32 stades vont être construits, ouais, 32 construits ou remis aux normes, a promis le président malgache. Il est soutenu par des stars, rien de moins que Samuel Eto'o et Youri Djorkaeff, car on ne parle pas que de sport et de gros sous. La FIFA veut développer un programme de scolarisation par le football, mais pour ça évidemment, il faut des stades.
Voilà, sûrement des chaussures, des maillots, etc. etc. Aussi, Amélie Perrier, merci beaucoup. On se retrouve demain sous Sheila Raman sur France Inter. La chanson s'appelle Maya. L'ambiance sous Sheila Raman, Maya sur France Inter. Allez, mesdames, messieurs et autres gens, Julia Foy, c'est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia qui, chaque semaine, nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par la campagne de la semaine.
On a tout à Renault Royaume-Uni qui, pour les 30 ans de sa Clio, s'offre une jolie reprise d'Oasis, Wonderwall, au piano-voix. Écoutez. Le clip raconte l'histoire de deux gamines, l'une française, l'autre anglaise, qui se rencontrent lors d'un échange scolaire. Elles deviennent d'abord amies et puis amantes. À l'adolescence, le premier baiser a lieu évidemment dans une Clio avec ce qu'il faut de pluie battant sur le pare-brise et de maladresse amoureuse dans les gestes. Il y a aussi ce qu'il faut de douleur et de tristesse pour gagner en tension dramatique. Douleur écrite quand le père de l'une des deux découvre les lettres qu'elles se sont écrites. Douleur muette de celle qui assiste au mariage hétéro de l'autre. Mais comme l'amour triomphe toujours de l'adversité et des cons, nos deux héroïnes finissent par se retrouver. Le dernier plan est sur elles au volant, à l'arrière de la voiture, leur petite fille. Et en fait, Fabienne, c'est tout simplement joli, tout simplement bien vu aussi. Ces deux femmes s'aiment, point. Le fait qu'elles soient lesbiennes n'est pas le sujet. La campagne a été immédiatement saluée par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et par la plupart des médias LGBT, certains se demandant à quand une pub équivalente en France. Alors, comment vous dire, je voudrais pas vous décevoir, mais le même Renault, pour la Twingo, chez nous, il y a 2 ans, a produit ceci.
En ville, les rayures sont inévitables. Nous avons donc créé un produit unique. Renault présente Twingo Nail Polish. Des vernis assortis à la couleur de votre Twingo.
C'est ça. Ça vous plaît, hein?
Qui permettent aussi de retoucher les rayures.
Et voilà.
Écoutez le slogan.
Sublimez vos ongles et votre voiture.
Ah bah voilà, sublimez vos ongles et votre voiture, Fabienne. Comme quoi, il y a un petit peu de boulot quand
un
même.
Un petit peu, allez. Un peu de boulot, mais ça avance, Julia, par exemple, en Belgique.
L'avortement devrait être bientôt totalement dépénalisé, car pour l'heure, les médecins et les patientes, on le rappelle, qui contreviennent aux dispositions légales encadrant l'IVG risquent bel et bien des sanctions pénales. Alors ça disparaîtrait. Une révision de la loi actuelle est en cours d'examen. Elle prévoirait aussi d'autoriser les femmes à avorter jusqu'à 18 semaines de grossesse, 6 semaines de plus que la plupart des pays européens. Donc, cela dit, c'est loin d'être fait au Parlement, disons, sur le côté droit, hein, ça passe assez mal. Les débats risquent d'être longs et houleux, avec surtout le risque de déboucher sur un texte chèvre-choutiste. Oui, alors c'est comme ça qu'on dit au Luxembourg. Okay. Si j'en crois ce papier du Luxembourg Wörth, où j'ai chopé cette info, comme quoi, voyez, avec moi, vous apprenez des trucs.
Voilà, chèvre-choutiste, on termine avec l'image de la semaine.
Fermez les yeux, imaginez une paire de seins, du plâtre dessus. Derrière, porteuse de la poitrine, Tilly Buchanan, jeune femme de 27 ans, habitante de la banlieue de Salt Lake City aux États-Unis. Devant les seins, trois gamins, parfaitement taillurés, normal, ce sont les seins de leur belle-mère, hein, on peut pas dire qu'ils aient l'habitude de les croiser tous les jours. Sauf que là, elle bricolait dans le garage de la maison avec leur père. Comme ils se sont retrouvés recouverts de plâtre, ils se mettent torse nu. Un geste assez inoffensif en réalité, sauf pour les fétichistes de la truelle, mais visiblement ça n'était pas le cas. N'empêche, la mère des enfants avant de l'histoire et ça ne lui plaît pas du tout. Elle saisit les autorités, la jeune Tilly se retrouve poursuivie pour indécence devant un enfant. Dans le très conservateur état de l'Utah, c'est un délit passible d'un an de prison et Tilly risque de se retrouver inscrite pour 10 ans au fichier des délinquants sexuels. Le père ? Ah ben non. Rien, non, le père, pas de problème. Parce que Tilly Buchanan est une femme, son torse nu est considéré comme intrinsèquement pornographique et pervers, tandis que le torse nu de son mari est considéré comme symbole de force et de fierté. Tilly Buchanan n'est poursuivie qu'à cause de son sexe. Alors, c'est pas de moi, Fabienne, hein, c'est l'avocat de Tilly Buchanan. Cela dit, l'argument n'est pas nouveau chez les féministes. Bien au contraire, depuis une dizaine d'années, on a vu fleurir ou ressurgir des revendications pour pouvoir se promener poitrine découverte comme les hommes au sein de l'espace public. En Suède, depuis 2007, ça s'appelle le Go Topless Day, ou Free the Nipple aux États-Unis, le front des seins nus encore au Danemark. Avec les femmes, on franchit un cap supplémentaire. Le sein nu n'est plus l'objet de la revendication, mais l'arme d'un combat beaucoup plus global. Et voilà comment on affiche une différence anatomique pour demander le droit à l'indifférence de traitement. Vous avez une semaine pour réfléchir, Fabienne.
Je réfléchis, mais je voudrais bien réfléchir tout habillée pour l'instant, si ça ne vous ennuie pas.
Non, mettez-vous sein nu au micro.
Merci beaucoup. À mardi prochain, Julia.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau ce soir. Cyril, nous partons pour le Royaume-Uni en pleine campagne donc pour les élections législatives. Ce sera le 12 décembre prochain. L'enjeu crucial du scrutin, bien sûr, c'est le Brexit. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire, mais la campagne est en train de prendre une toute autre tournure.
Oui, de quoi battre en brèche une idée reçue, idée selon laquelle ces élections seraient une sorte de second référendum pour ou contre le Brexit. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Même si la société britannique, on le sait, reste profondément divisée et polarisée sur cette question, le Brexit ne sera pas le seul enjeu, ce sera peut-être même pas le ressort principal du vote dans deux semaines. Premier indicateur, jetons un œil à la campagne des Lib Dems, les libéraux démocrates. C'est le seul parti ouvertement anti-Brexit de l'échiquier politique, et il est en chute libre dans les sondages, crédité de 15% des intentions de vote contre 20% il y a encore quelques semaines. En cause, la stratégie de la chef de file des Lib Dems, Jo Swindon, qui a jugé bon de positionner son parti comme celui du maintien dans l'Union Européenne. Visiblement, ça n'accroche pas auprès des électeurs. Le fait qu'elle ait affiché son ambition de devenir Premier ministre, alors qu'elle n'a objectivement aucune chance d'y parvenir, ne plaide pas non plus en sa faveur. En tout cas, trop parler du Brexit n'est pas bon, semble-t-il, pour attirer les suffrages.
Alors, Jeremy Corbyn, il l'a bien compris, le chef des travaillistes, Cyril, a choisi de ne pas faire campagne spécifiquement sur le Brexit.
Il suffit de lire le manifeste du Labour, le programme électoral du parti dévoilé la semaine dernière. Il y est question avant tout de quoi ? De mettre fin à l'austérité, de relancer les programmes sociaux, de sauver le système de santé, le NHS, si précieux aux yeux des Britanniques. Et si vous écoutez bien Jeremy Corbyn, eh bien vous verrez ce qu'il dit. Le Brexit n'est pas la cause de tous les problèmes, c'est plutôt la conséquence d'une politique menée depuis des années par les conservateurs. Sur le Brexit lui-même, le calendrier, la suite des opérations, le Labour promet un second référendum. C'est déjà une position plus claire qu'auparavant. Il a fallu beaucoup de temps à Jeremy Corbyn pour se positionner sans ambiguïté là-dessus. Mais si ce second référendum a lieu, le chef des travaillistes ne prendra pas position, ni pour ni contre. Voilà comment Corbyn espère convaincre les électeurs de lui donner les clés du 10 Downing Street.
Alors, il y a un autre indicateur, la capacité de mobilisation du camp pro-européen, qui n'est pas vraiment au rendez-vous.
Là aussi, on aurait pu penser le contraire. Au bout de plus de trois ans d'atermoiement, les anti-Brexit dites, les jeunes notamment pourraient être tentés de renverser la vapeur, de chercher à barrer la route à Boris Johnson, lui dont la personnalité si clivante fait office de repoussoir pour une partie des électeurs, mais c'est plutôt une sorte d'apathie générale qui domine. Alors rien n'est définitif bien sûr, hein. On observe par exemple que les inscriptions sur les listes électorales sont en forte hausse et tout ça pourrait avoir un effet sur le résultat, mais le camp pro-européen semble assez peu audible jusque-là. Les artistes, hein, par exemple, se font beaucoup plus discrets. Les choses sont peut-être enfin en train de bouger à l'approche du scrutin. Dans une tribune qui vient d'être publiée hier soir, des musiciens emmenés par le rappeur Stormzy viennent d'annoncer leur soutien au Labour. Mais encore une fois, c'est très intéressant à observer. Ils ne parlent pas ou très peu du Brexit. Ils préfèrent souligner l'engagement des travaillistes à lutter contre l'austérité, à prendre un virage plus social. Preuve encore une fois que cette thématique est celle qui émerge le plus dans la campagne.
Mais alors comment on interprète le fait que le Brexit ne soit pas ou ne soit plus le sujet central du débat ?
Mais c'est peut-être parce que les Britanniques en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de ce feuilleton politique qui n'en finit plus, ras-le-bol des sessions parlementaires ubuesques où rien ne se décide, ras-le-bol des passes d'armes entre Londres et Bruxelles, des accords signés puis refusés, ras-le-bol aussi de l'omniprésence médiatique du Brexit qui a conduit il y a quelques semaines le groupe audiovisuel Sky à lancer une chaîne de télévision garantie 100% sans Brexit. Ce que demandent les électeurs, c'est qu'on leur parle de vrais sujets qui touchent à leur vie quotidienne, protection sociale, santé, logement. C'est là-dessus que va probablement se jouer l'élection. Reste à savoir si le positionnement à gauche adopté par Jeremy Corbyn et le Labour portera ses fruits, ou alors si au contraire les Britanniques choisiront de donner une vraie majorité à Boris Johnson pour qu'il les débarrasse une bonne fois pour toutes de ce Brexit qui empoisonne la vie du Royaume-Uni depuis 3 ans et demi.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup. À demain, le 18-20 de France Inter continue, le journal de Sébastien Paour, c'est dans un instant, et puis le téléphone sonne juste après. Restez avec nous.